Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Excellence, chers confrères dans le sacerdoce, chers ordinants, et bien chers frères, toute cette année qui s'est écoulée, nous avons assisté à l'apogée, on pourrait dire, au paroxysme de l'hérésie écuménique. Et hélas, principalement à Rome. Et je pense que nous ne pouvons plus douter que nous sommes au moins au commencement de cette grande apostasie, de cette apostasie généralisée annoncée par l'Écriture sainte. Lorsque l'apôtre saint Paul parle de cette apostasie qui précédera la venue de l'Antichrist, il nous dit qu'à ce moment-là, beaucoup périront parce qu'ils n'auront pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'auront pas reçu l'amour de la vérité. Je pense que c'est vraiment une phrase qui explique le sens de notre résistance, de notre combat, et en dernière instance, le problème de fond de la crise dans l'Église. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils ne l'ont pas reçu. Ils ne veulent pas le recevoir. Ils ne veulent plus de la tradition. Si on reçoit, il y a une transmission, et donc il y a une tradition. Ils ne veulent plus du passé de l'Église, du magistère, de toujours. Ils ne veulent plus de la tradition. Dans toutes ces cérémonies de repentance et cette vague en cascade, ça va jusque partout dans le monde, des demandes de pardon. Le pire, c'est qu'ils demandent pardon par les principes. Pardon pour la doctrine qui a inspiré la vie de l'Église pendant 20 siècles. On n'a pas demandé pardon pour les excès. Ça, c'est peut-être pas convenable, mais en tout cas, ça serait vrai. Mais il y a un refus, une rupture, une volonté de rupture avec la tradition. Il n'y a que la tradition vivante, il n'y a que le Concile Vatican II qui réinterprète absolument toute la foi en s'éloignant précisément de la foi. Recevoir signifie avoir l'humilité de l'intelligence, l'obsequium fidei, l'obéissance de l'intelligence devant la vérité. Et pour cela, il faut aimer la vérité, il faut la vouloir de toutes ses forces, il faut la désirer, la chercher. Or, eux, ils ont préféré leurs opinions, leurs utopies, et cette vérité ne reste pas seulement l'objet de notre intelligence. Cette vérité, c'est le Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis la vérité. Notre Seigneur est la vérité parce qu'il est Dieu. Et donc il est la vérité première et parfaite, pleine. Cause de toute vérité. Il est la vérité parce qu'il est le Verbe incarné, donc la sagesse incarnée, et qu'il est venu pour nous rendre témoignage de la vérité et nous révéler la vérité sur Dieu, sur la Trinité, sur tous les mystères et sur le salut de l'homme. Il est venu nous révéler la vérité du salut. Et le prêtre il ne fait que continuer cette mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout d'abord, il doit prêcher la vérité, et toute la vérité, et toujours la vérité. Nous ne pouvons rien contre la vérité, dit saint Paul. Et donc, nous ne voulons pas de ces Christs modernistes, de ces Christs psychologiques, comme le dit si bien le cardinal Pie, conçus par l'esprit humain, engendrés et nés de l'intelligence, qui surgit de la profondeur de la conscience de l'homme et donc de l'humanité. Là, nous ne trouvons que l'homme. Et donc, le néant, le désespoir par rapport au salut. Nous ne voulons pas de ce Christ immanent à l'homme, qui est consubstantié à l'homme et donc qui s'identifie finalement avec l'homme. Nous croyons au Christ, conçu du Saint-Esprit, né de la Sainte Vierge Marie, qui est venu nous apprendre toute vérité, qui est docteur. Qui est aussi sauveur, rédempteur, qui est souverain prêtre, qui est le médecin de nos âmes, car il nous guérit de nos malheurs, de nos misères, de nos péchés. Nous voulons le Christ roi. Voilà notre foi. Voilà ce qui nous sépare aujourd'hui de Rome. Et de même, nous ne voulons pas de cette Église qui s'identifie à des différents degrés à toutes les religions, et en définitive, et en bonne logique, au monde. De cette Église qui rend culte aussi aux faux dieux et qui rend en faux culte au vrai Dieu, et qui admet dans son sein toutes les erreurs qui parcourent le monde, et principalement les pensées de la philosophie moderne. Eh bien non, nous nous sommes attachés indéfectiblement à l'Église, dépositaire de la vérité, mère et maîtresse, de toutes les églises et de tout le monde, mère et maîtresse de la vérité. Et c'est pour cela, précisément, que nous sommes catholiques, parce que l'Église nous donne la vérité. Et nous ne voulons pas non plus de toute cette pensée moderne qui est pétrie d'antichristianisme et d'athéisme. Eux qui connaissent si bien la philosophie, ils n'ont rien compris. Je prends un exemple qui peut être un peu philosophique, mais qui me semble intéressant. Au siècle passé, il y a eu un penseur, un philosophe, philologue, poète, dit-on, Frédéric Nietzsche, qui a été comme un prophète et un mystique de l'esprit antichrétien du monde moderne. Prophète, et lui-même le dit, j'entends annoncer ce qui va arriver dans l'histoire au cours de 2 prochains siècles. C'est un homme qui prend la pensée moderne et qui tire les dernières et ultimes conséquences contenues et qui s'est fait apôtre de cet antichristianisme. Et mystique parce qu'il a vécu lui-même, il a vécu en lui ces processus spirituels, modernistes. Eh bien, il part de la négation de la vérité en s'effondrant sur Kant, sur la philosophie du devenir en suivant Hegel, Et alors il va plus loin et il conclut dans le nihilisme. Et dans la proclamation de la mort de Dieu. Et alors à partir de là, comme tous ces philosophes, il devient démiurge, c'est-à-dire il faut refaire une réalité, il faut la diriger vers un but, vers une fin. Et alors il part du présupposé qu'il n'y a que les pulsions, les instants, c'est-à-dire ce que nous dirions les passions. Les passions dans l'homme. Et alors l'homme doit tout d'abord renverser l'ordre existant, doit renverser toutes les vérités, et en premier lieu le christianisme et l'Église catholique, parce qu'il a bien compris que l'Église catholique était la protectrice de toute vérité. Et refonder un monde nouveau, fondé sur le matérialisme, sur l'hédonisme. C'est cela qu'il appelle la volonté des puissances. Et c'est bien le monde que nous vivons. C'est l'homme qui façonne la vérité, le bien et le réel. Et ces processus se terminent par le surhomme. C'est-à-dire simplement l'homme qui se substitue à Dieu. Et c'est vraiment le fond de la pensée moderne. Alors comment peut-on prétendre d'incorporer des valeurs de cette pensée? Si le libéralisme lui-même s'inscrit parfaitement dans cette logique antichrétienne, nihiliste, on veut marier les lumières et les ténèbres. Le Christ est Bélial. Et il a été mystique, oui, il a vécu tous ces processus et il est fini fou. Il a fini ce jour, après avoir écrit le dernier livre où il propose cette lutte contre le christianisme, dans un livre qui s'appelle L'Antichrist, eh bien il est terminé fou. Et c'est ce qui attend à ces mondes modernes. Le désespoir, les liens, et après la folie. On court derrière l'essence. Et après, il n'y a que la folie ou la mort. Alors nous ne voulons pas de toute cette philosophie et cette pensée moderne. Nous voulons de la philosophie pérennis, celle de saint Thomas d'Aquin, la philosophie de la vérité, du bien, du vrai, du réel. Donc en premier lieu, chers ordinants, il faut que nous ayons l'intransigeance doctrinale. Sur la doctrine, sur la vérité, on est intransigeant. Et c'est là parce que la vérité, par définition, est une et unique. Et donc il y a un seul, unique Christ. Seul et unique, vraie Église. Et quand il s'agit de la doctrine, il n'y a pas d'autre attitude possible que l'intransigeance doctrinale. Mais il ne faut pas, comme le dit le cardinal Pie aussi, qu'un excès de vérité nous conduise à un défaut de charité. Ce sont des paroles du cardinal Pie. C'est-à-dire la vérité doit nécessairement être accompagnée de la charité, de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain. L'apôtre nous dit « Faites la vérité dans la charité ». Et saint Augustin a ce sujet des réflexions fort intéressantes. Par exemple, il dit « Seule la vérité aura la victoire. » Seule la vérité aura la victoire. Et la victoire de la vérité, c'est la charité. Pas de victoire contre l'erreur, en dehors de la vérité. Mais la victoire de la vérité, c'est la charité. Il dit aussi, le Seigneur qui a donné à ses serviteurs de détruire les royaumes de l'erreur, nous invite pourtant à sauver les hommes et pas à les anéantir. La vérité sans la charité, dit-il aussi, c'est la méchanceté. Et ainsi, il élève une prière à Dieu. Mite domine mitigatione sin cor meum. Ut caritate veritatis non admitam veritatem caritatis. Saint Augustin fait souvent des jeux de mots, ce qui complique un peu la pensée. Mais c'est très beau ce qu'il dit. Il dit, envoyez Seigneur des douceurs dans mon cœur, des mitigations, des douceurs, des assouplissements dans mon cœur, afin que l'amour de la vérité ne me fasse pas perdre la vérité de l'amour. Et cela est très, très profond. Car nous disons Dieu est vérité. Oui, mais Dieu est charité. Donc la vérité en Dieu, c'est la charité. Et la charité, la vérité. Et si on n'a pas l'amour de la vérité, on ne peut pas avoir la charité. Et si on n'a pas la charité, on perd finalement la vérité. Et voilà les deux échecs que nous avons toujours. C'est là, c'est l'histoire répétée et cyclique. De deux tentations. Soit de compromettre un peu la vérité par lassitude ou sous prétexte de charité, soit sous prétexte de défense de la vérité, manquer à la charité. Or, il faut que nous ayons comme prêtres des entrailles de miséricorde par rapport à ceux qui sont dans l'erreur. Il faut haïr l'erreur, mais il faut aimer ceux qui sont dans l'erreur. Et il faut avoir pitié d'eux. Il faut croire qu'ils ne comprennent pas. Et en tout cas qu'ils sont dans les pires des malheurs. Donc dans la défense de la foi, il faut toujours que nous ayons cette charité, cet amour profond. Et je pense que aujourd'hui, peut-être vous attendez que je dise quelque chose sur le troisième secret de Fatima. Et à vrai dire, on ne peut pas dire beaucoup qui soit sûr. Je ne vais pas donner des opinions ou des interprétations plus souvent heureuses ou réussies de la partie symbolique. Je peux vous dire quand même quelque chose par rapport à la publication faite par le Vatican, par Rome. Quelques faits. Là, on ne peut pas discuter. Le premier des faits, c'est que dans cette présentation, dans la première et deuxième partie du secret, ils ont choisi la troisième mémoire de sœur Lucie, et non pas la quatrième, plus complète et postérieure à la troisième. Pourquoi ? Tout simplement pour faire tomber une phrase. Au Portugal, le dogme de la foi se conservera toujours, sera toujours conservé. Que dans le test qu'ils ont donné, serait la seule référence, mais suffisante, à la perte de la foi et à la crise de la foi. Là, c'est la Sainte Vierge qui part, et ensuite on passe dans ce qu'ils ont révélé, publié, tout de suite à une vision. Est-ce qu'il manque une partie? Est-ce qu'il manque quelques alinéas? Mais je n'en sais rien. On peut le penser, mais on ne peut pas l'affirmer, puisqu'on n'a pas de preuves. Le deuxième fait clair, c'est que la Russie ne s'est pas convertie et qu'il n'y a pas de la paix, ni en Russie, ni dans le monde. Donc les effets rattachés à la consécration de la Russie au cœur de Marie ne se sont pas réalisés. Alors nous pouvons par là comprendre que la consécration n'a pas été faite selon les désirs du ciel. Et alors ils disent que cette vision symbolique et prophétique se rattache à la deuxième partie du secret où Notre-Dame annonce de façon conditionnelle que si on ne tient pas compte de son message, la Russie répandra ses erreurs par le monde, que beaucoup de nations seront anéanties, que le pape aura beaucoup à souffrir et que les bons seront martyrisés. Ce qui en partie s'est réalisé. Mais sœur Lucie, même dans une lettre de 82, explique que puisque on n'a pas écouté le message, le demande du ciel, la Russie a déjà commencé à répandre déjà ses erreurs de par le monde, etc. Mais il ajoute, bien que la fin de cette prophétie n'est pas encore accomplie, ce qui est dit au troisième secret. Il a dit ça en 82, avant de révéler le secret. Ensuite, dans ces secrets, encore un fait, il est parlé d'un évêque vêtu de blanc, de Saint-Père, très bien, mais qui est tué, qui est mis à mort. Et ensuite, à sa suite, des évêques, des prêtres, des religieux, des religieuses, et même des laïcs. Et c'est là, après avoir surmonté une montagne jusqu'au calvaire, quand ils sont à genoux. Eh bien, c'est là, ce n'est pas réalisé, c'est clair. Et cette menace, elle est toujours valable, parce qu'on n'a pas encore entendu les demandes du ciel, et pas seulement la consécration de la Russie, mais la pratique des premières samedis du mois, ou la dévotion au cœur de Marie. Donc je pense que ça, c'est assez clair. Cette partie de la prophétie du troisième secret est toujours d'actualité. Donc ce n'est pas vrai que c'est du passé, déjà réalisé, comme ils ont dit. Et ils insistent sur cela. Et il dit que cette vision, c'était l'attentat au pape. Et que comme c'était conditionnel, et comme ils ont fait une consécration, après, eh bien, au lieu d'être tué, il a été blessé. Et cela relève de la science-fiction. Et donc, il est clair que le troisième secret est toujours d'actualité, bien que nous ne comprenions pas tout à fait. Et dans cette description, il s'agit bien du pape, des évêques, des prêtres, des religieux, religieuses, et des laïcs, des hommes et des femmes, de toutes conditions. Et vous voyez, c'est bien l'Église catholique dans toute sa hiérarchie. Donc il ne s'agit pas non plus du martyr des chrétiens, c'est-à-dire les orthodoxes et les protestants aussi. Il s'agit bel et bien d'une persécution contre l'Église. Et ça sera comme ça l'a été toujours dans l'histoire de l'Église, mais surtout au départ, le martyr sera vraiment la sémence des nouveaux chrétiens et du salut. Et c'est cela qui signifie le désange qui ramasse le sang des martyrs dans des arrosoirs qui vont sur ceux qui s'approchent de Dieu. Le martyr des saints apportera le salut aux autres. Mais quoi qu'il en soit, donc, du troisième secret, notre combat, il est bien fondé sur la défense de la foi. Et je trouve qu'il est providentiel que contre toute attente et contre toute logique moderniste, et on voit bien qu'ils sont très embarrassés d'avoir révélé le secret, contre toute attente donc, face à la cité terrestre, la cité de Satan, ressurgit la cité de Dieu qui est la très sainte Vierge Marie. face donc à la cité de l'homme, à la cité terrestre, charnelle, de la religion de l'homme qui s'est fait Dieu. Ressurgit notre refuge, qui est la cité de Dieu, qui est la Sainte Vierge Marie. C'est en elle que Dieu est devenu homme, et c'est là notre religion. Alors son cœur nous est offert comme un refuge. Spécialement pour ces temps de persécution et d'abandon de la foi. La fidélité n'est pas du tout acquise. Nous avons besoin de cette protection du cœur maternel de Marie, de notre mère. Et dans ce sens, tout le message de Fatima nous rappelle la demande du ciel, c'est des pénitences, des conversions, des prières, des sacrifices, des réparations, de faire de nous-mêmes une oblation pour réparer au cœur de Jésus et Marie et pour les saluts des pécheurs. Et ça, c'est peut-être un aspect plutôt délaissé de notre combat. Et c'est vraiment le cœur du message de Fatima. Cet esprit de réparation. Alors, chers ordinants, chers confrères, mais bien chers frères, demeurons fermes dans la foi, gardons les traditions, sans nous émouvoir, fermement, restons toujours dans la vérité et dans la charité du Christ, et restons dans cette vérité et cette charité, et donc toujours fidèles à la Sainte Église, par le cœur immaculé de Marie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Multiplié à l'Ancien Testament, comment Dieu lui-même a enseigné par Moïse son peuple dans la façon, pour la façon juste de l'adorer. Et cet enseignement est passé à l'Église catholique. C'est l'Église catholique et elle seule qui sait adorer Dieu comme il veut. Cet œcuménisme par lequel aujourd'hui on veut faire honneur à toutes ces autres religions, c'est une incompréhension de Dieu, laquelle de la part des catholiques est rien de moins qu'une trahison. Ces pauvres hommes d'Église qui président à cela, s'ils n'ont pas perdu la foi, ils ont perdu certainement le sens de la foi. Et Dieu sait s'ils n'ont pas peut-être aussi, nombre d'entre eux, perdu la foi. Dieu le sait. Le vrai Dieu, la vraie adoration de Dieu, le vrai culte de Dieu, quel privilège pour nous autres. Et de la part de nous tous, je tiens à remercier tous les séminaristes qui auront, je le sais, beaucoup travaillé, beaucoup œuvré pour que cette liturgie de la Semaine Sainte se réalise dans la sacristie, pour le chant, pour les cérémonies. C'est un grand travail, mais un apostolat, chers séminaristes, soyez-en sûrs, C'est un grand apostolat. Et pour vous-même aussi. Parce que ce que vous vivez ici au séminaire, vous emporterez avec vous. Et c'est un idéal que vous aurez toujours présent à l'esprit pour chercher à le réaliser dans votre apostolat. Et plus vous réaliserez cette beauté et cette splendeur, plus vous rendrez présent aux fidèles, à vos fidèles, notre Seigneur lui-même. Dans sa personne physique, dans la présence directe de notre Seigneur, nous le souhaitons souvent. Si seulement nous avions vécu au temps de notre Seigneur, si seulement nous pouvions le rencontrer personnellement, comme les apôtres l'ont rencontré et l'ont connu. Oui, oui. Et évidemment, dans la personne de notre Seigneur, il y avait cette calme majesté, cette splendeur sereine dans tous ses mouvements, dans tous ses gestes, dans toutes ses paroles, sans doute, qui nous aurait impressionné, oui. Et si nous avions la foi en ce temps-là, si nous avions eu, comme les apôtres, la foi, nous l'aurions adoré, notre Seigneur, parmi nous, comme eux, ils l'ont adoré. Et pourtant, ils se sont enfuis dans le jardin de Gethsémané. D'une certaine façon, est-ce que nous autres, aujourd'hui, nous sommes plus pauvres à cet égard que les apôtres et les disciples et les saintes femmes qui ont fréquenté directement notre Seigneur? Est-ce que la splendeur de la liturgie, de cette liturgie, est moins splendide que la personne de notre Seigneur lui-même? Évidemment, c'est différent. Mais s'il fallait en ce temps-là la foi pour se rendre compte de ce qu'on avait devant les yeux, de celui qu'on avait devant les yeux, et si nous avons cette même foi aujourd'hui, la liturgie, d'une certaine façon, ne vaut-elle pas notre Seigneur lui-même? Notre Seigneur n'a jamais eu les ornements de la messe catholique, parce que la messe catholique n'y était pas encore. Il n'a pas eu non plus les ornements du grand prêtre de l'Ancien Testament, parce qu'il n'était pas grand prêtre de l'Ancien Testament selon le sacerdoce d'Aaron. Il était prêtre selon l'ordre de Melchisédek. C'était une nouvelle prêtrise. Donc il n'a pas eu, il n'a jamais porté les ornements de l'ancien sacerdoce. À strictement parler, donc, on n'a jamais vu notre Seigneur revêtu des ornements sacerdotaux. Pourtant, c'était le grand prêtre, le divin grand prêtre. Mais les ornements n'y étaient pas. Maintenant, nous avons les ornements. Nous avons toute la splendeur d'une belle église, de beaux ornements, d'un chant, le chant grégorien que n'ont pas eu les apôtres. Ils ont eu les chants hébreux, les chants de l'Ancien Testament, splendides sans doute. Mais qui valait le chant grégorien, il est permis d'en douter. Autrement dit, si nous croyons, nous avons dans ces splendeurs de la liturgie notre Seigneur devant les yeux et dans les oreilles. Si nous ne croyons pas, ma foi, tout cela passe à côté de nous comme c'est passé à côté de tant des contemporains de notre Seigneur, que c'était Dieu parmi eux. Et nous le savons bien, il y a 100 ans donc, cette liturgie se célébrait dans nos nombreuses cathédrales et séminaires, maintenant on danse si peu. Pourquoi ? Parce que les splendeurs sont passées à côté de ceux qui ont perdu la foi, qui ont effectivement perdu la foi, ou au moins le sens de la foi. Et ils ont une liturgie piètre, un chant lamentable, de la musique lamentable. Je pourrais vous en chanter, je vous épargne. Sans doute vous êtes nombreux à connaître déjà cette espèce de chant-là. Rien que l'évoquer fait rire, eh oui, c'est ridicule. Quel privilège, chers séminaristes, quel don, chers fidèles, que la foi, la vraie foi, quel don. Car c'est un pur don de Dieu, nous le savons, par notre catéchisme. Que les sœurs soient remerciées aussi, qui travaillent à longueur d'année dans le séminaire et sur lesquelles on compte sans doute pour la beauté du linge de la liturgie, entre autres, et la réparation sans doute des ornements, tout un travail encore pour la gloire de Dieu. Travail caché si vous voulez, mais travail qui n'est pas moins nécessaire. Saint Paul dit, si la résurrection n'est pas vraie, nous sommes les plus misérables des hommes. Mais on pourrait dire également, si la résurrection est vraie, combien sont misérables toutes ces pauvres gens qui n'y croient pas. Le pauvre monde. Chers séminaristes, vous partez bien ce soir. Demain, en vacances, vous serez de nouveau dans le monde. Ne soyez pas du monde. Et si vous vous retrouvez dans ce monde, ne redevenez pas mondain. Fuyez l'esprit mondain, fuyez la mondanité. Car ce pauvre monde, combien il a besoin de la bonne odeur du Christ. Et vous vous rendrez compte, sans doute, en partant en vacances, déjà plusieurs fois probablement, vous vous êtes rendu compte, vous partez rempli par vos sens, avec l'esprit rempli de l'Esprit de Dieu, par la liturgie en particulier. Et puis vous vous rendez compte, ça vous donne une joie toute particulière, mais plus vous êtes 2 heures, vous êtes 2 jours dans le monde de nouveau, et cet Esprit de Dieu qui était si fort en vous le jour de la résurrection, eh bien, petit à petit, cela se dissipe. Ah, quel dommage, car c'est précisément de cette bonne odeur du Christ que le monde a tellement besoin. Alors gardez précieusement en vous, quand vous partirez, gardez en vous cet esprit de Dieu. Rempli par lequel vous n'avez pas besoin d'être moins viril, ni moins joyeux, c'est évident. Avec cette virilité et cette joie de notre Seigneur lui-même. Ce pauvre monde, combien de gens intelligents, pourtant intelligents, ce n'est pas l'intelligence qui leur manque, pour qui c'est un acquis, c'est une évidence, C'est une donnée qu'on ne peut pas croire. La foi s'est périmée, un homme intelligent ne peut pas croire. Voilà pour combien de gens cela va de soi qu'on ne peut plus croire. Et alors, ces gens-là, ils doivent chercher toutes sortes de substituts, de remplacements pour la foi, et ils n'en trouvent pas. C'est un problème pour eux insoluble. Une civilisation apostate qui cherche à se maintenir, qui cherche à garder ce qu'elle avait par la foi, on cherche à garder dans l'apostasie. Ce n'est pas possible. C'est une contradiction. Nous qui avons la foi par la grâce de Dieu, par le don de Dieu, nous le voyons clairement. Et pourtant, ces pauvres hommes, ces intellectuels, si vous voulez, si intelligents, ils ne le voient pas. Ils sont aveugles. Ils ne marchent pas dans la lumière. Notre Seigneur dit, « Je suis la lumière du monde. Qui croit en moi ne marche pas dans les ténèbres, mais aura la lumière éternelle. » Combien de pauvres qui marchent aujourd'hui dans les ténèbres, parce que la résurrection est vraie. Ce n'est pas une imagination, une illusion. Et c'est pour cela, chers séminaristes, que les gens aujourd'hui ont tant besoin de vous et de votre foi. Pourtant, vous le savez, il n'y a pas, la foi ne repose pas, la foi n'est pas contraire à la raison. Au contraire, c'est le manque de foi qui est contraire à la raison. La foi n'exige pas que nous renoncions à notre raison. En particulier, la foi en la résurrection. Qu'est-ce qui a pu transformer 11 pêcheurs de lacs, des hommes tout à fait quelconques, ni avocats, ni architectes, ni médecins, ni intellectuels, humainement parlant, des pauvres types. Qu'est-ce qui a pu transformer quand ils ont été complètement découragés, abattus, défaits par la mise en croix et l'exécution de notre Seigneur? Qu'est-ce qui a pu les transformer en vainqueurs du monde? Car ces apôtres, ces 11 et puis de nouveau 12 apôtres ont vaincu le monde, ont posé les bases pour que le monde entier de ce temps-là soit transformé. Et ces 12 apôtres et les fondements qu'ils ont posés, l'Église qu'ils ont construite est toujours là et est toujours capable de transformer le monde. Qu'est-ce qui a pu transformer ces pêcheurs de lacs découragés en vainqueurs du monde, psychologiquement? Ça, c'est un fait historique. Ce n'est pas un fait de la foi, ça. C'est un fait de l'histoire. Et la psychologie humaine, ce n'est pas la foi, c'est un fait de la nature humaine. Qu'est-ce qui a pu transformer, humainement parlant, qu'est-ce qui a pu les transformer de cette façon-là? Ce n'est que, à bien raisonner, ce n'est que quelque chose comme la résurrection qui a pu opérer un tel changement. Et dire le contraire, c'est défaire sa raison. Le reconnaître, c'est suivre la raison. Et donc, croire à la résurrection, ce n'est pas du tout contraire à la foi. Ah, excusez-moi, c'est pas du tout contraire à la raison. De même, autre argument percutant, mais argument d'histoire et de psychologie, pas un argument de foi. On ne croit pas parce qu'on croit. On ne croit pas seulement parce qu'on croit. On croit aussi parce que c'est tout à fait conforme à la raison de croire. Et c'est refuser la foi qui est contraire à la raison. Ah, ces pauvres dits intellectuels d'aujourd'hui, ils ont perdu la tête. Et ils pensent qu'ils se font l'illusion, il est nécessaire de perdre la tête ainsi. On ne peut pas faire autrement que perdre la tête. Voilà comme ils pensent. Ils sont dans les ténèbres. Alors cet autre argument, voilà un argument par les amis de notre Seigneur, les apôtres. L'autre argument, c'est par les ennemis de notre Seigneur, les Juifs. Les Juifs détestent notre Seigneur, ils l'ont mis en croix. Ils persécuteront ses apôtres, logiquement. Alors, Saint-Pierre, de revenir en plein Jérusalem, prêcher notre Seigneur et prêcher surtout sa résurrection. L'argument le plus fort, là, pour croire en la divinité de notre Seigneur, c'est la résurrection. Alors, si les Juifs voulaient couper court, empêcher l'essor de la religion du Nazaréen, il fallait surtout un argument contre la résurrection. Si seulement ils avaient pu prouver que la résurrection était fausse, tout comme tout l'argument de Saint-Pierre s'écroulait. Et quel aurait été l'argument plus fort contre la résurrection que de découvrir le corps? Or, le Mossad est puissant. Il a l'argent, il a les banques, il a la police, il a les médias, il a les espions, il a tout en main. En ce temps-là aussi, si donc ces gens si fortement motivés pour casser le christianisme, si puissants, si intelligents, si malins, si ces gens-là n'ont pas pu découvrir le corps, c'est que le corps n'était plus là pour être découvert. Autrement, le Mossad l'aurait découvert. Si le Mossad l'avait découvert, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Et la religion catholique n'aurait pas transformé le monde, c'est évident. Si donc la religion catholique a transformé le monde, c'est que le Mossad n'a pas pu découvrir le corps de notre Seigneur. Et la seule explication de cela, c'est que le corps n'était pas là pour être découvert. Et à ces gens-là, si intelligents, comme le relève Saint-Augustin, hier dans les ténèbres, ces gens si intelligents trouvent l'argument, trouvent le moyen pour empêcher la résurrection, pour empêcher les effets de la résurrection. Ils donnent de l'argent aux soldats qui dormaient pour témoigner que pendant qu'ils dormaient, ils ont vu quelqu'un enlever le corps. Saint Augustin de rire. Et c'est tout à fait juste. Combien sont aveugles ces pauvres gens-là. Et de nos jours également, cet aveuglement perdure. Et pourtant, la foi reste un don. Ah, très chers amis, remercions Dieu toujours, sachant tous les jours remercier Dieu que nous croyons. Et faisons tout notre possible pour que les autres, ceux qui nous entourent, croient. Et encore une fois, ce n'est pas les inviter à aller contraire à leur raison, à penser de façon contraire à la raison. Au contraire, c'est ce qu'il y a de plus conforme à la raison droite. C'est la droiture, en effet, qui manque. Alors faisons ce que nous pouvons. Bien sûr, aujourd'hui, on s'illusionne si on pense que c'est une chose facile. Les gens sont enfermés dans l'apostasie. Ils veulent leur apostasie. Ils jouissent de leur apostasie. Mais c'est Dieu qui est plus fort. Et aujourd'hui, hier soir, la liturgie nous a rappelé par le cierge Pascal et son entrée dans l'église en ténèbres. Et lorsqu'on allume les cierges, Lumen Christi, la lumière du Christ, c'est nous mettre encore une fois devant les yeux et dans les oreilles, dans les sens, cette explosion de lumière et de joie qu'est la résurrection. Pâques, mes très chers amis, c'est une explosion autrement plus forte et plus puissante qu'une explosion même atomique, d'une bombe atomique. Une explosion de lumière et de joie qui, justement, a bouleversé le monde et qui est capable encore aujourd'hui, sans aucun doute, est encore capable de bouleverser le monde. Et si cette vérité de la résurrection ne bouleverse plus le monde, et c'est que vous et moi, nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Alors, il faut que nous repensions dans la prière, que nous repensions ce qui est arrivé à ces apôtres, à ces 12 hommes quelconques. Humainement parlant, et vous et moi, nous sommes humainement parlant quelconques, sans doute. La question n'est pas là. La grâce de Dieu n'est pas là. La puissance de Dieu n'est pas là. Ce n'est pas dans la force humaine, comme saint Paul le relève si fortement dans la deuxième aux Corinthiens. Dans ma faiblesse, il y a de l'espace pour la force de Dieu de jouer. Chers séminaristes, vous pouvez penser que vous êtes faibles aussi. Oui. Mais si nous sommes fidèles, c'est la force de Dieu qui passe par nous et qui doit passer par nous. Cette force de Dieu qui bouleverse les montagnes, qui renverse les montagnes. Montagne d'apostasie, autrement plus dure que les montagnes en face, ici, les montagnes physiques en face. Montagne d'apostasie et qui tous les jours s'accumule encore. Mais, chers catholiques, nous sommes les plus forts, nous avons en nous de quoi vaincre tout cela. Et nous ne vainquons pas apparemment pour le moment, enfin tout cela c'est dans les plans de Dieu. Les apôtres, encore, comme notre Seigneur a semblé être vaincu, a été mis en croix. Les apôtres ont été tous martyrisés, on les a piétinés, finalement tués. Ils ont semblé être vaincus et pourtant, aujourd'hui, chers fidèles, nous semblons être bien vaincus, bel et bien vaincus. L'ennemi triomphe, l'ennemi pense avoir tout en main, avoir tout. Sa victoire est une illusion. Nous le verrons. Mais il ne faut pas que nous nous laissions gagner par l'esprit du monde. Il ne faut pas que nous arrivions à penser que la leur est une vraie victoire. C'est une misère ce qu'ils font, surtout pour ces pauvres eux-mêmes. Ils se damnent en enfer, ils mènent une vie d'enfer déjà, dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit. Ce sont des serviteurs du diable. Et le diable ne rend pas heureux. Mais la résurrection, bien sûr, nous rappelle que si notre Seigneur et les apôtres ont vaincu, c'est par la croix. Et saint Paul nous rappelle aujourd'hui, dans la liturgie d'aujourd'hui, les extraits de l'Épître. Et c'est une vie nouvelle que nous devons mener, chers fidèles. Une vie nouvelle, pas une vie à la remorque du monde, en imitant le monde, en ayant envie de jouir de ce dont jouit le monde. Non. Il faut faire autrement que le monde. Il faut vivre autrement que le monde. Alors, voici encore une petite explosion. Chères filles, chères dames, couvrez la tête dans l'église. Soyez autre que le monde. Donnez au monde cet exemple de la modestie, de la dignité, de la soumission. Quel mot terrible! La soumission de la femme. La douceur de la femme. Pas sa bravoure, sa défiance. Moi, je suis là. C'est ça, une nouvelle vie. C'est cela. C'est dans les petites choses, dans les habits de tous les jours. Les catholiques seront différents du monde. Et notre Seigneur nous demande des sacrifices. Il nous veut que nous sacrifions notre orgueil, notre indépendance, notre insoumission. Réfléchissez. Oh, c'est un petit point, vous direz. Mais la grande différence entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit du monde passe par ces petits points, passe par une série de petits points. Remercions Dieu toujours, donc, de la foi et vivons de cette foi et soyons tous, chacun à sa place, prêt, comme dit saint Paul, comme dira saint Paul, à faire les sacrifices des plaisirs, des valeurs du monde qui correspondent à cette nouvelle vie. C'est une nouvelle vie que Dieu nous demande. Et à cette condition-là, nous renversons l'apostasie, mais pas autrement. Si nous jouissons comme tous les autres, si nous nous comportons comme tous les autres, comment voulez-vous que nous les changions en mieux? Ce n'est pas possible. Alors, je remercie encore les séminaristes et les professeurs qui les forment si bien. Je vous félicite, chers fidèles, qui êtes là aujourd'hui. Vous pourriez si bien ne pas être là ou être dans la voie de la facilité, dans cette église-là à laquelle il est indifférent comment on se tient ou comment on s'habille à l'église. Mais vous êtes là. Dans l'une des lectures hier, Moïse, bien sûr, signalait, rappelait, bientôt avant de mourir, il rappelait aux Israélites les grands dons de Dieu. Mais il disait en même temps, attention, Si vous êtes infidèle, le bon Dieu vous punira de façon spéciale à cause des dons spéciaux qu'il vous a donnés. Aux catholiques, à combien plus forte raison. Chers fidèles, chers catholiques, nous avons reçu de Dieu beaucoup de dons. Mais il nous demande beaucoup, il nous récompensera beaucoup. Mais malheur à nous, si nous descendons des hauteurs, si nous refusons le sacrifice, si nous ne menons pas une vie nouvelle, si en faisant sembler de mener la vie nouvelle, nous menons toujours la vie ancienne, malheur à nous. C'est ça le cœur de l'apostasie. Et c'est la clé de 400, 500 ans d'histoire européenne et de chrétienté. Maintenir les apparences tandis qu'en dessous, on glisse vers le diable. Donner les apparences à Dieu, mais donner la substance au diable. Quel malheur! Que nous ne fassions pas ainsi, chers amis, ou le bon Dieu nous punira par le fait que nous nous trouvons ici, avec la vraie foi, dans la tradition, le bon Dieu nous a fait un don tout à fait particulier. Il faut être fidèle. Nous prions pour cela la très sainte Vierge. Il est difficile parfois, le sacrifice est difficile, le sacrifice est pénible, le sacrifice coûte, oui, soit. À notre pauvre nature humaine déchue, oui. À notre dame d'adoucir ses peines, si vous voulez, ses peines du vieil homme. Et à notre dame de ressortir le nouvel homme. Son fils, ses enfants, les fils de son fils, les enfants de son fils, les chrétiens. Adoucissons nos peines par le recours à la très sainte Vierge. Et très chers fidèles, vivons ce que nous croyons. Autrement, nous croirons comme nous vivons, comme le font tant d'apostats aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.